dissonances.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. En 2011, Boutros Alak, notre invité, était partie prenante du printemps syrien, le début d'une longue révolution et d'une meurtrière guerre civile.
Boutros Alak, né en 1944 en Syrie, a quitté son pays natal pour la France à l'âge de 26 ans.
Le professeur de littérature arabe qu'il a été à l'université Paris 3 tient aujourd'hui à témoigner à nos micros pour évoquer la Syrie à travers son histoire depuis l'Empire ottoman, en passant par le mandat français, jusqu'à la dictature de la dynastie Assad et l'arrivée des rebelles d'Ahmed al-Sharaa en décembre 2024.
Sa vision de l'histoire de ce coin de monde, ce Proche-Orient où se situe la Syrie, éclaire tous les problèmes actuels, notamment ceux liés aux hégémonismes des grandes puissances, ainsi qu'à la colonisation de la Palestine.
Boutros Alak.
De la Syrie à la colonisation de la Palestine, sur Dissonance.
Entre le 8 et le 10 décembre 2024, la Syrie fait la une des médias. En effet, fin novembre 2024, les rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham lancent une offensive au nord-ouest de la Syrie, ce qui leur permet de prendre la ville d'Alep. Et le 8 décembre 2024, les rebelles prennent Damas alors que le président Assad fuit le pays. Et deux jours après, il nomme Ahmed al-Sharaa, plus connu sous son surnom de guerre Abu Mohamed al-Julani, en tant que chef du gouvernement transitoire. Mais depuis quelque temps, la Syrie n'est plus évoquée dans les médias, alors que cette arrivée des rebelles a fait naître des espoirs, mais aussi des craintes, au vu du passé de djihadiste du leader de la rébellion. Nous avons en ligne M. Boutros Alak. Né en Syrie en 1944, docteur d'État en lettres et sciences humaines, agrégé d'arabe et professeur émérite de littérature arabe moderne à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Il a aussi dirigé le Centre des études arabes de Paris 3 et est auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent est « Histoire de littérature arabe moderne, 1800-1945 », paru chez Actes Sud en 2007. Bonjour Monsieur Alak.
Bonjour.
Vous allez nous donner des informations récentes sur ce que vit le peuple syrien actuellement. Mais je pense qu'on ne peut faire l'impasse sur un rappel de l'histoire de ce grand pays. Au départ, il y eut l'Empire ottoman ainsi que des mandats britanniques et français.
Oui, tout à fait. Parce que c'est cette période qui a présidé à la problématique mise en place depuis. Et il faudrait peut-être mentionner que c'est justement à cette période, à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, où la notion de modernité était dans tous les esprits et donnait de l'espoir à tout le monde, que les grandes catastrophes, soit en Europe, soit au Proche-Orient, soit peut-être aussi dans d'autres régions du monde, ont eu lieu, et je pense évidemment à la Première Guerre mondiale, un carnage qu'on voit actuellement comme plus ou moins inutile, et ses conséquences pour l'Europe, ça je n'en parlerai pas, mais essentiellement pour la question du Proche-Orient. Donc cette période concerne la fin de l'Empire ottoman qui a duré à peu près 4 siècles, entre 1515 à peu près et la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est le plus marquant dans cette période et qui ne dit pas grand-chose de l'Empire ottoman lui-même, ce sont quelques événements marquants. Je pense qu'il est important de noter que le premier génocide du XXe siècle a eu lieu à ce moment-là, au Proche-Orient, j'entends. Le premier carnage, à côté du premier carnage de la Première Guerre mondiale, oui. Il y a justement les génocides des Arméniens en 1915. Et ce génocide est le premier au XXe siècle dans la région du Proche-Orient. Mais c'est aussi le premier déplacement de population, déplacement forcé. C'est-à-dire, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont été renvoyées de Turquie vers soit l'Occident, la Grèce, soit vers l'Arménie, soit vers le Sud, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak. 5 millions. Tout ça, évidemment, au nom, avec une coupure plus exactement, des grandes puissances de l'époque, la France et l'Angleterre, puisque Atatürk a été entendu, et les clauses de Versailles de 1919 ont été modifiées par ces deux grandes puissances à Lausanne en 1923, si je me trompe. Et ce qui caractérise cette situation, c'est essentiellement un nationalisme forcené qui est caché derrière la laïcité. Atatürk est presque un saint homme pour l'Occident, puisqu'il est laïque, mais il y a derrière lui tout ce que je viens de noter. C'est lui qui a créé cette notion, ce nationalisme, celui qui hérite et qui a forgé ce nationalisme turc qui dure jusqu'à maintenant, un nationalisme forcené, c'est-à-dire avec une définition très précise, la Turquie, il faut être d'origine turque, ouais, d'origine turque, c'est essentiel, il faut avoir comme langue la langue turque, on peut le comprendre, mais il n'y a que ça. Et finalement, et enfin, il y a cette notion assez curieuse pour Alaï, il faut être musulman sunnite. Donc c'est cette situation qui a créé un peu le nationalisme turc et qui a rejailli sur l'ensemble du pays. Alors il y a ces deux événements, mais il y a ensuite, et pendant cette guerre, Première Guerre mondiale, il y a eu la mise décidée d'avance sous tutelle du Proche-Orient par ses mêmes alliés qui avaient promis en même temps aux Arabes et essentiellement à la dynastie hachémite qui était à l'époque en Arabie de créer, de l'aider à créer un royaume arabe uni qui irait de la péninsule arabe jusqu'au nord de la Syrie en échange de son aide, c'est-à-dire son entrée en guerre contre la Turquie. Et ils avaient besoin essentiellement de ce symbole religieux que constituait la famille hachémite à l'époque.
Et ces deux puissances européennes sont la Grande-Bretagne et la France, c'est ça?
Oui, voilà. Oui, bien sûr. Alors, et ceci s'est accompagné d'un événement essentiel qui est la promesse Balfour, qui justement allait contre la promesse faite aux Arabes et qui allait donner à... ou faire de la Palestine un foyer juif. Et ce qui est important à noter, c'est que ça n'est pas l'Angleterre qui avait besoin de ce mouvement sioniste naissant à la fin du XIXe siècle, mais c'est le contraire. C'est-à-dire l'Angleterre qui avait ses plans. Mmh. Et la France est entrée là-dedans. Mmh. Il avait ses plans de d'émietter la région et de placer au cœur du Proche-Orient un corps étranger qui permettrait d'une part de créer une sorte de cloison entre le monde arabe asiatique et le monde arabe africain, c'est-à-dire ce qui se passe depuis un mille temps entre l'Égypte et ce qu'on appelait la Syrie, Bilad al-Sham, c'est-à-dire la grande Syrie, Syria romaine, toute cette région, Syrie, Irak, Palestine, Liban, et Jordanie. Et donc, ça va être un événement déstabilisateur énorme.
Oui.
La création de l'État d'Israël qui s'en suivra, qui n'est qu'une réalisation de ce que Napoléon, déjà un siècle plus tôt, a essayé de faire, dans la même idée, c'est-à-dire d'avoir, de maîtriser la route des Indes. En général, à ce moment-là, c'était en jouant contre les Anglais. C'est pour cela qu'il y a eu des accords Sykes-Picot entre l'Angleterre et la France.
En quelle année à peu près ?
1900, c'était avant la guerre.
Juste
avant la guerre. Déjà, pour se partager le pays, alors qu'il y avait la promesse faite aux Arabes pour la République arabe unie, et alors qu'il y avait la promesse Balfour était en train de se constituer, de se partager cette région du Proche-Orient. Il y a un troisième élément qui était important pour les Alliés, et surtout pour les Anglais, c'est de capter les richesses du pays, essentiellement sous la forme du pétrole, qu'on était en train de découvrir. On savait déjà au nord de l'Irak qu'il y avait des quantités énormes de pétrole, mais aussi dans la région du Golfe, c'est-à-dire ce qu'on appelle actuellement les Émirats. Et c'est important peut-être de rappeler ce mot de Churchill, qui n'était juste au début de la Première Guerre mondiale, qui n'était alors qu'un secrétaire d'État à la défense, pour les affaires étrangères, et qui disait, au moment où on découvrait le pétrole dans les pays, dans la région du Golfe, à chaque puits de pétrole, il faudrait créer un émirat. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus clair. Donc, émietter et pouvoir dominer. Dans la même logique, la même problématique, la France, à qui sont échus la Syrie et le Liban, elle a commencé, la Syrie et le Liban, ça faisait un ensemble sur l'Empire ottoman.
Tout à fait, oui.
Qui a commencé par détacher le Liban de l'ensemble de la région pour assurer un pouvoir qu'elle pensait lui être acquis par le biais des chrétiens et principalement par la communauté maronite. Donc, en prenant le littoral, certaines régions, ce qu'on appelle actuellement la Beka, avec des arrangements et des choses qui apparaissent actuellement qui n'étaient pas tout à fait claires. Et puis, un peu plus tard, en accordant à la Turquie la région d'Alexandrette, c'est-à-dire actuellement Antioche et la région d'Antioche, et cela au moment où s'annonçait la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait gagner la sympathie d'Atatürk pour qu'il soit du bon côté. Mais en même temps, la France a essayé pendant plusieurs années de disloquer la Syrie en 4 ou 5 entités. Ce qui, évidemment, résonne dans le discours politique international et surtout à partir de la vision américaine et israélienne. Heureusement que la France a échoué et les Syriens ont tenu à constituer un seul pays, mais il y avait déjà l'émiettement qui est déjà fait en disloquant la Syrie de sa partie nord, et en même temps en séparant le Liban et la Syrie. Mais de son côté, le Royaume-Uni a eu la plus grande partie, la plus grande part du gâteau, oui, en ayant l'Irak jusqu'à la Palestine. Le Royaume-Uni donc a essayé en plus de contrôler les Émirats. Il contrôle également l'Égypte, le Soudan, et il installe la famille Saoud à la place de la famille Hachemi, ce qui est important, mais on ne pourra pas en parler plus pour l'instant. Et il crée la Cisjordanie, un État fantoche, pour faire plaisir aux Hachemites qu'elle a mis de côté. Et il faut tenir compte aussi du fait que c'est à ce moment-là, c'est au début de la Deuxième Guerre mondiale, que les USA sont arrivés là et ont remplacé peu à peu les Anglais. En fait, avec un marchandage très clair, nous vous protégeons, mais votre pétrole est à nous. اسمك مجهول كقاتل توباك تحسدكم تكون وراك وراك ياسر على التراك عم باك عم باك لفينا العالم كله بدون باسبور بدك تعمل معنا في تصرف على الدور فايتين باللعبة على سكور مسهل كنتو نحنا هون الستور نتعبر فيها كينت سو هارد كور تمشي لحد الحيط يا رب ستور ايه حطنا اليرموك على الخريطة الراب هو الطريقة سمعنا الناس الحقيقة حفلتنا بنعمل حريقة اخترنا موسيقى جريئة لنضجع عقول مسقطة قالوا ارتكبنا خطيئة وانه موسيقتنا هبطة اكشن 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 عالبيت فيلم اكشن 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 عالبيت فيلم اكشن كلمتنا سلاح عليكم مثل كلاشنكوف منحكي ما منخاف وانت عايش بخوف عايشين من الموسيقى وانت عالراب صروف
Boutros Alak.
De la Syrie à la colonisation de la Palestine, sur Dissonance.
Donc en 1946, la Syrie devient indépendante, enfin, et en 1970 jusqu'en décembre 2024, pendant 54 ans, c'est le clan Assad qui va régner en maître sur la Syrie. Est-ce qu'on peut passer des années 1946 aux années 2024 comme ça, en faisant ce grand saut?
Plus exactement, il y a deux périodes. Ah. Il y a la période des indépendances de 1946, où s'est installé à ce moment-là un régime bourgeois parlementaire qui a duré avec des soubresauts assez importants jusqu'à la période de l'arrivée de Baas au pouvoir en 1963. Et le clan Assad est arrivé en 70. Alors, il y a eu cette période avant Assad, qui était une période en partie un régime parlementaire bourgeois, mais aussi il y a eu tous les soubresauts militaires, c'est-à-dire la militarisation de la vie syrienne. Les premiers coups d'État ont eu lieu déjà en 49, c'est-à-dire un an après l'instauration de l'État d'Israël, et il a été suivi par plusieurs coups d'État. De même, en Égypte, il y a eu le coup d'État de Nasser, en Irak également. Donc c'était une période qui était dominée par la réaction à la spoliation de la Palestine ou à l'installation de l'État d'Israël. Et tout est déterminé par la perte de la Palestine, au moins pour une grande part. Bon, après cette période, de régime bourgeois, il y a eu une période de quelques années, entre 1963 et l'arrivée de Assad, une période de révolution un peu gauchiste, qui a mis le pays à genoux. Et c'est à ce moment-là que Assad est arrivé. D'accord. Et il est arrivé parce que le pays était en faillite. Et lui, il faut le dire, il est arrivé là avec une élection démocratique.
D'accord, par la voie démocratique, donc. D'accord, mais il a tenu ce pays de main de maître. Après, il a été assez... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce n'était pas une démocratie.
ça n'est absolument pas une démocratie. Pendant, disons, 3 ans, il y avait un aspect démocratique où les choses allaient bien. Après la guerre de 1973, c'est-à-dire la guerre du Kippour, il a commencé à monopoliser le pouvoir pour finir par fonder une dynastie. Et alors, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre tous les leviers de pouvoir, avec une répression énorme à tous les niveaux, le maillage complet de toute la société, aussi bien les jeunes que toutes les catégories. La corruption était mise à contribution, mais il faut dire aussi, c'est à ce moment-là que lui, le laïc, a permis le début de l'islamisation de la Syrie.
D'accord.
Par son accord avec l'Arabie saoudite, le wahhabisme saoudien, parce que lui, il avait besoin de l'argent et l'Arabie saoudite avait besoin de l'attirer de son côté contre l'Iran. Ce qui, les choses, vous voyez comment les choses, ça avance d'autres choses.
Ouais.
En même temps, comme c'était un stratège hors pair, il était en très bonne entente avec l'Occident, en même temps qu'avec l'URSS. S'il est entré au Liban, les troupes syriennes sont entrées au Liban dans les années 70, à la fin des années 70, c'est en accord avec les Occidentaux, les Américains et les Israéliens. Bon, mais c'est une période de fer, avec quelques moments où les choses se relâchaient un petit peu et où l'économie fonctionnait plus ou moins bien. Et ça a été en même temps la destruction de la société civile syrienne et également de l'économie syrienne. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'enlever à la bourgeoisie, à la classe moyenne, disons, ses pouvoirs économiques pour garantir son pouvoir. Et à ce moment-là, l'économie est devenue une économie de services ou tout simplement de corruption. Le pays ne fonctionnait plus du tout.
C'est ce qui a fait qu'au début de 2011, il y a eu cette réaction à laquelle vous avez pris part, ce qu'on a appelé le printemps arabe.
Alors justement, il y a eu ça. Pendant cette période, Hassan est mort, père est mort en 2000, et dont son fils est arrivé, mais c'était absolument pas à la hauteur. Il a essayé de faire cette réforme, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, probablement parce qu'il voyait que toute réforme allait aboutir à la perte du régime.
Et oui.
Et c'est à ce moment-là que le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, est commencé. Mais il a commencé en Syrie d'une façon, un peu comme en Égypte aussi, d'une façon extrêmement pacifiste.
Oui.
Les masses, surtout des jeunes, ne demandaient même pas le départ de Assad.
D'accord.
Ils demandaient le rétablissement de la démocratie et en même temps que l'économie soit relancée. Et ce mouvement a pris de l'ampleur de façon extraordinaire, comme en Égypte d'ailleurs, et il a duré au moins les 6 ou 8 premiers mois de 2011, avant que ça bascule vers la militarisation.
D'accord.
Et pourquoi la militarisation? Parce que Assad avait besoin sûrement d'actes violents pour pouvoir réagir militairement, mais également, et ça c'est important, et les médias français n'aiment pas le dire ou n'aiment pas le savoir non plus, c'est que à ce moment-là, il y avait déjà quelque chose, une coalition qui se dessinait d'une part entre l'Iran, le régime syrien et le Hezbollah au Liban,
oui,
qui faisait pression sur Israël.
D'accord.
Et qui faisait que le petit Hezbollah était le seul à tenir tête à Israël avec quelques milliers de personnes, alors que les armées arabes, toutes les armées arabes n'ont plus rien à faire. Alors donc il y avait d'un côté cette coalition et de l'autre côté la coalition qui à ce moment-là était prise en main par l'Arabie Saoudite, les Émirats avec, mais également les Israéliens étaient dans le coup, les Américains derrière bien sûr, ouais. Et les Européens qui suivaient. Et eux, ils voulaient absolument casser cette coalition. Et pour la casser, il fallait frapper le chaînon le plus faible, c'est-à-dire le régime syrien. Donc, ils ne cherchaient absolument pas la démocratie, ils s'en foutaient. Ouais, ouais. C'est pas l'Arabie Saoudite qui allait chercher la démocratie, c'est pas l'Israélien. Ce qu'ils voulaient, c'est abattre le régime pour détruire cette coalition. Et eux avaient déjà préparé, déjà l'armée, une sorte de milice, la milice des frères musulmans. Ouais. Et autour de cette milice, on constituait contre une bonne partie, probablement la plus grande partie de la population syrienne, un mouvement qui s'appelait à l'époque l'Assemblée nationale syrienne, qui a été portée sur les fonds bâtissements, si j'ose dire, par la France, et qui a fait de ce mouvement le représentant légitime unique du peuple syrien. Et c'est à ce moment-là que les massacres ont commencé. La population, surtout ces jeunes qui avaient commencé pacifiquement, certains se sont retirés, les autres ont continué, et en fait, ça a conduit à une multiplication de groupes djihadistes du côté d'Al-Qaïda d'un côté, et du côté qui aboutit finalement à Daesh.
D'accord. Et en préparant cette émission, Monsieur Alak, vous m'avez dit que vous aviez été vous-même partie prenante de ce printemps arabe.
Oui, je note très, très rapidement que la première réunion en 2011, c'était au mois d'août à peu près, il y a eu la première réunion au Qatar, à Doha, de quelques intellectuels et militants syriens. Et c'était clair dès le début qu'il y avait d'un côté les Qataris, les frères musulmans syriens ou autres, qui était en face de l'autre partie, dont j'étais, qui demandait non pas la guerre, mais d'abord de créer un programme comme la résistance française.
Oui. Le Conseil national de la résistance.
Conseil supérieur de la résistance, pour expliquer au peuple syrien ce qu'ils entendaient de faire. Et d'essayer de faire créer un mouvement libre qui ne soit pas dépendant des monarchies du Golfe, ni d'Israël, ni des États-Unis, ni de l'Europe, qui jouait à ce moment-là un très mauvais rôle. C'était l'époque du célèbre Sarkozy,
oui, oui.
Qui avait les intentions qu'on connaît, et qui avait surtout besoin de beaucoup d'argent. Et il était obligé d'obéir au Qatar, qui à ce moment-là, si vous vous en rappelez, achetait tout en France.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Bon, c'est ça qui a fait que ça, c'est parti dans ce sens. Et là, il y a eu les massacres de tous les côtés. On était, nous, aussi bien contre le régime, qui est le premier responsable de tout, mais aussi contre la vassalisation du Conseil national syrien, ouais. Qui était entre les mains des pays de la région, des pays là, et avec une vitrine de gens qui sont, disons, des intellectuels vivant en Europe et en Amérique. Et le premier président de ce conseil a été un collègue syrien. Et évidemment, il a mal tourné. On ne garde pas de lui un très bon souvenir, ni de lui, ni du conseil,
oui.
Qui actuellement est réduit à rien.
كل عام وانتو بخير العالم عم تحتفل كل عام وانتو بخير اهلا بغزة عم تنقتل شباب بعمر الورد شرطة تهز الارض ماتوا بصواريخ على غزة حشية حقد كان عندو فرض يحموا العرض صاروا تحت الارض راحوا مع الضرب بدون كهربا بعز البرد قتل بالجامع اثناء السجد باي عهد او وعد كتب هذا العقد عقد بنص بقتل الاطفال والنساء الابرياء غزة نبع منها نهر من دماء اشلاء بالطرقات بنات صغيرات تمزقت اجسادها بفعل التفجيرات لنخبوا يا عرب بيت وحدة مش خايفين لنحرر اهل غزة ونرجع فلسطين لانت بدنا نبقى ساتين عن ظلم لك صار الوقت حتى يتحقق هالحلم حصرونا بقلب غزة دبحونا بالإعلام شهرونا هيك بدا الناس مثل المسلسل تبعونا بنشرة الأخبار ذكرونا مو عارفين إن بقلب بيوتنا حبسونا زلونا جوعونا وللشوارع زتونا هجرونا وباسم الثورة العربية ها بهدلونا لك دم ولا دموع نحوي كلمة لا برجوع حاجة لسه أنا وغيري على أهل قلبي موجوع فلسطين ما بتموت لأنه دمنا مو مصنوع اختفى الشرف كان من راس كبير انكشف على أرض الواقع حلف حجر ودبابة صواريخ للإبادة لك هاد أنا الرأس العربي لسه في زيادة لك الناس عم بتموت والألوف ولا حاجة ولك زهقنا من الإبادة عم غني هالكلام وحامل موتي على كفي مو عارفة من واقف حدي مو عارفة من ماشي بصفي بيوت يما صرخ الطفل لما صاحت ام زكلة تندك فقتلة هالشي عم ينعد كل ساعة الف مرة والسبب ان عرب عشتنا لازم تبقى بحصرة عشرة على عشرة بالارهاب احنا اخذنا وبنظر كل العالم ارهابية احنا ليش لاني عربي وبروحي بفدي بلدي لاخر قطرة بدمي بحمي تراب وطني مش هيك رباني بي لا اسكت عوجع خيي ولك وينك يا امت العرب وين الاخوة العربية قرارات حوارات حكي فاضي وتفاهات متاهة وعشنا فيها ولا كلها سخافات لا انت حنبقى عم نضرب حبسين المأساة من عروقي نشف دمي شو يلي عم بصير فكروا مرة بالوحدة فكروا مرة بالتغيير لنعيش امي وحدة لنغير هالمصير
Boutros Alak
De la Syrie à la colonisation de la Palestine, sur Dissonance.
Et c'est ça qui a fait que la guerre syrienne a été probablement la guerre la plus rude, la plus sauvage, qui a eu lieu au moins depuis la guerre d'Espagne.
D'accord, elle a duré de mars 2011 à février 2016. Il y aura près de 500 000 morts, de nombreux massacres, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui seront commis, notamment par ce régime syrien et l'État islamique. Et on compte entre 100 000 et 200 000 personnes qui ont disparu dans les prisons du régime et 60 000 qui seront torturées à mort. Il y aura aussi l'utilisation des armes chimiques et le déplacement de la population entre 5 et 6 millions de Syriens qui fuient le pays. Soit le quart de la population. Effectivement, ça a été dramatique.
Au plus bas. Mais malheureusement, là aussi, je dois rétablir un peu des choses,
oui.
Même si les amis syriens ne sont pas contents. C'est que en France, on est très bien documenté sur les exactions du régime, et c'est très bien. Mais on n'est pas du tout documenté sur les exactions de l'autre côté. Pas les jeunes du début de la révolte pacifiste, mais de ce qui s'est passé après, et donc l'image et la personne même de Al-Julani qui est maintenant au pouvoir.
voilà, qui est arrivé récemment.
Et Al-Soulani, comme vous le savez, il a été d'abord lutté après l'invasion de l'Irak. Il a été lutté contre les Américains, mis en prison. Ensuite, il a passé d'Al-Qaïda à Daesh en jouant entre les deux. Et il était un facteur important dans ce mouvement djihadiste. Jusqu'à ce qu'il puisse, ce qu'il ait pu constituer au nord de la Syrie, avec l'aide de la Turquie, son petit royaume à Idlib.
Est-ce que vous avez des espoirs ou des craintes par rapport à maintenant ce nouveau pouvoir ?
Alors, pour être juste, le fait qu'il ait pris, il ait ramassé le pouvoir. Il n'a rien pris, il n'a pas libéré, le pouvoir n'existait plus, donc il est arrivé, il a ramassé le pouvoir. Ça a été une explosion de joie.
Oui, c'est ce qu'on a vu dans les images. Ouais.
Et en Syrie, jusqu'à maintenant, c'est aussi la fête, mais elle est sur son déclin, sur ses fins.
Ah.
Pourquoi ? On lui sait gré d'avoir évité une nouvelle guerre civile.
Oui.
C'est-à-dire entre lui et le régime. Et son discours est extrêmement lénifiant, mais les actes ne suivent pas. Au contraire, les actes, parfois, le plus souvent, vont en sens contraire.
D'accord.
Alors, sans vouloir faire des procès d'intention, il est évidemment tenu par ses troupes.
Oui, parce qu'il y a plusieurs factions.
Ils sont loin d'être unifiés.
Ouais.
Il y a au moins une trentaine de groupes.
Ah oui.
Et qui sont tout à fait djihadistes, comme lui. Probablement, lui, il a dû évoluer parce que c'est une tête politique, sans doute, et un homme qui a une présence et qui a derrière lui une culture. Il est d'une famille bourgeoise, intellectuelle, qui était de un père auteur, qui a travaillé, qui était profondément patriote, et donc il a des racines. Mais est-ce qu'il a gardé ses convictions djihadistes, ou bien c'est parce que ses troupes font pression sur lui qui fait ce qu'il fait, qu'il n'arrive plus à bouger. Et il a aussi ses amis, les Turcs d'un côté, il a peur des Américains, des Israéliens qui occupent déjà, qui ont réoccupé et avancé sur le territoire syrien. Et il y a le peuple qui est toujours sous sanctions économiques. Ce qui a payé le prix des sanctions économiques contre la Syrie, ce n'est pas la famille Assad et le clan Assad, ce sont le pays, les gens
qui sont
à 80% actuellement dans un pays riche à tous les niveaux, sous le seuil de pauvreté. Et ça, on ne veut pas en entendre beaucoup parler, ni par, disons, les occidentaux, disons, les grands médias, des milliardaires, ni par les têtes d'affiche au pouvoir de ce que on nomme, mais de façon tout à fait incorrecte, la révolution syrienne. Il n'y a pas de révolution syrienne. Il y a des djihadistes qui sont au pouvoir et à qui on a préparé le chemin pendant 8 ans.
Et vous qui avez des contacts avec la Syrie, des contacts directs, peut-être par vos amis, la famille, est-ce qu'il y a des signes qui vous laisseraient penser que ce pays va être encore un pays soumis au djihadisme ou alors un pays qui basculerait vers la démocratie ?
Le sentiment populaire qui est exprimé un peu partout, parce que tout le monde parle et les réunions partout, ils demandent qu'il y ait la démocratie dans un pays pluraliste tel que la Syrie l'a été depuis des milliers d'années. Mais il y a tout le contexte régional et international. Il y a les visées d'Israël avec soutenu actuellement de façon encore plus violente par les Américains, mais aussi avec le silence assourdissant des Européens, avec quelques déclarations mièvres qui ne signifie pas grand-chose.
Ouais.
Et là, c'est un danger essentiel. Comment constituer un pays quand il n'y a plus d'armée, quand la terre syrienne est en fait à la merci de la puissante armée israélienne, ou plus exactement américano-israélienne. Et il y a le fait aussi qu'il y a la Turquie qui a sévisé sur la région. Et tout est conditionné, en fait, qu'on le veuille ou non, par une solution du problème palestinien qui n'est pas près de se faire.
Et justement, vous évoquez cette question palestinienne comme un nœud important du problème.
Oui, si j'ai commencé par parler d'Atatürk, c'est pour dire que c'est la première étape, là, ou du moins le modèle, qui a été suivi en même temps par le mouvement sioniste israélien. Et je parle bien du sionisme israélien.
Oui, bien sûr.
Le sionisme de Herzl, mais qui a prévalu depuis Ben-Gurion, depuis Herzl, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de différence énorme entre, il n'y a pas, pratiquement pas de différence entre Netanyahou et Ben-Gurion.
Très bien.
Ça, c'est important à savoir, peut-être parce qu'on a mis le Shoah, le Shoah, comme origine de la question juive et palestinienne.
Oui.
Pas du tout. Depuis la fin du 19e siècle, il y a eu ce sionisme dur et pur, il y en a d'autres, parce qu'il y a le sionisme spirituel qui a eu une grande importance.
Oui.
Et il y a tous les pacifistes israéliens et américains, européens, les juifs arabes, qui ne sont absolument pas dans ce sionisme israélien, qui est essentiellement, il faut le dire, c'est un sionisme qui cherche d'abord le transfert, le terme transfert est depuis l'origine, transfert de population. On s'en fiche depuis 1891, un pèlerin juif de Russie est venu en Palestine prospecter des choses, et il a envoyé, il a écrit une grande lettre à ses amis pour leur dire la terre de Palestine n'est pas vide, et tout est occupé. Et il a ajouté autre chose, nous pensons, et ça c'est un autre élément essentiel qui n'est pas nouveau, qui est le racisme. On pense chez nous que les Arabes sont des bêtes. Non, soyez sûrs qu'ils sont aussi intelligents que nous.
Bien
et
sûr.
D'ailleurs, ils sont sémites comme nous. Et si vous continuez comme ça, nous allons transplanter dans cette région l'antisémitisme qui n'y existait pas. Et le racisme et le transfert, ça a continué tout au long. Ce racisme, évidemment, j'en parle pas comme quelque chose qui est général au peuple juif, pas du tout. Le témoignage crève les yeux, c'est le sionisme israélien
tout
qui
à fait.
Est tel,
on
et non pas le reste.
Tout à fait,
et dans cette situation qui est renforcée par l'alliance entre les Israéliens et les Américains, le gouvernement américain, j'entends, fait qu'il y a pratiquement pas de solution, d'autant plus qu'elle est idéologique. Et je note très rapidement un fait historique. En 1942, il y a eu une rencontre aux États-Unis entre le mouvement sioniste et les Américains, où on a fait alliance sous le slogan très clair « Américanisme égale sionisme ». C'est-à-dire, de façon très claire, ce que vous, Américains, vous avez fait pour sauver la civilisation et repousser la barbarie des Amérindiens, bien sûr, nous sommes en train de le faire au Proche-Orient. Et cela, les derniers propos de M. Trump, comme beaucoup d'autres, je crois, vont tout à fait dans le monde. Dans le même sens, ça n'est pas un illuminé. Il entre dans cette vision avec les évangélistes chrétiens, protestants, qui sont les troupes les plus importantes du sionisme israélien. Ils sont beaucoup plus puissants que les sionistes américains ou le sioniste européen. Ce sont les chrétiens évangélistes. Donc, ce n'est pas un problème de juifs ou pas de juifs. C'est un problème de colonialisme, voilà. de racisme. Et c'est pour ça qu'on se permet même d'aller contre tous les droits internationaux qu'on a institués après la Deuxième Guerre mondiale et essentiellement pour sauver les juifs et contre les accords et les décisions qui ont été faits après les procès des nazis, et entre autres pour sauver les civils en cette guerre. Tout ça a été fait en vue et à cause de la situation du fait que les civils juifs ont été visés par les nazis, ce qui est actuellement, on le voit depuis plus d'un an, ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc si on ne tient pas compte de cette réalité, on n'arrivera jamais à prendre les décisions qu'il faut. Et il est temps que l'Europe, et la France surtout, qui a été présente partout et de laquelle et dont on attendait l'essentiel, se réveille. Et ça n'est pas avec la financiarisation, le néolibéralisme, que la France peut changer d'attitude. Évidemment, c'est un grand sujet à débattre, mais la paix du monde, je pense, est actuellement en jeu parce que justement le droit lui-même est mis en question par ceux qui ont aidé à l'élaborer.
Mais les États arabes ?
Les États arabes, ça s'est passé en 1948. Vous savez, en 1948, c'était la même chose. Si les militaires avaient eu le coup d'État dans la région, c'est que les régimes qui étaient mis en place l'étaient grâce au soutien des colonialistes, c'est-à-dire d'abord français, anglais, ensuite américains. Ils n'ont aucun pouvoir. Maintenant, il y a quelque chose qui se dessine. D'un côté, le roi de Jordanie vient de rencontrer Trump et on a vu la misère qu'il a montrée. Sisi est à la botte des Américains et ils font exprès celui qui a été mis en place par eux. Le régime Assad, heureusement, est tombé, mais il est actuellement par terre. Les Émirats sont plus sionistes que les sionistes pour des raisons d'opposition à l'Arabie Saoudite. Ces régimes arabes qui ont été créés par la modernité malheureusement européenne humaniste ne sont que des complices, pratiquement des collaborateurs, aussi bien que le responsable de l'autorité palestinienne, Monsieur Abou Mazen.
Et donc, Monsieur Boutros Alak, est-ce que vous voyez des espoirs de paix, que ce soit en Syrie ou en Palestine, ou notamment à Gaza ?
Les espoirs existent et il y a probablement le fait qu'il y a un certain rééquilibrage qui se fait du côté de l'Est et du tiers-monde, ce qu'on appelle le Sud global, qui est opposé à cette politique et qui, j'espère, va peser de plus en plus. Il y a aussi le fait que le régime d'Arabie Saoudite, qui n'est pas absolument pas celui de mon cœur, est en train d'avoir un peu plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis et pourrait peut-être faire l'équilibre. Mais tout ça est extrêmement fragile, ce qui fait que l'Europe reste indispensable, mais elle est terriblement absente et culpabilisée à mort.
Je vous remercie beaucoup, M. Boutros Alak, pour tous ces éclairages.
Merci à vous et bonjour à vos auditeurs. Thank you.
Salut.
Et fraternité.
كني بضايع ما ادري عيشته وي له مع الميت وله بحيد امي وبيي سافروا اليوم الاثنين امي سافروا اليوم الاثنين حرم جور الدهر تراهم عيني
احمد الاروني حيران ما بم بسنايم كروغ دانا بم بسنايم لتلي بيتشي اموري وكشمايم لسنگو برمنا دانا خودش دانا وكشكو سرا وچمايم لبری قرانی بزی خواست دا گیر که من بیشتر او دستور دایم احمد و لو 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 بس نایا ربنه Hi.